With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se présente à vous là maintenant en extra bol, digression savamment négociée autour d'un film ou d'une série, un monument en l'occurrence puisqu'on va causer de Predator, du grand génie John McTiernan qui ressort au cinéma et que vous avez la stricte obligation d'aller voir car c'est un pur bonheur et c'est en substance que vont nous dire mes camarades Yannick Daran, salut Yannick.
Salut.
Et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Allez Cénociné, extra bol spécial Predator et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Predator 1987, Schwarzy, McTiernan, joie, félicité. J'ai bien résumé, Stéphane?
Monument, t'as tout dit.
Ouais.
Voilà. Shane Black aussi, quand même.
Ouais. Oui, Shane Black aussi, effectivement.
Ouais, non, Shane Black, il est un peu moins présent sur ce film-là que voilà.
Mais non, il joue dedans, quand même.
Ouais, il joue dedans parce que, en fait, Shane Black, c'était un acteur. Bon, je fais vraiment une petite aparté là-dessus, mais c'était un acteur. Il voulait être acteur à l'époque et, en gros, il voulait être sur le plateau. Joel Stuver s'est dit: ah, bah, j'ai un scénariste, je vais pouvoir le faire retoucher Predator. Shane Black a retouché un peu Predator et en fait est revenu en lui disant non, il faut vraiment faire le film le plus simple possible tel qu'il était écrit et il faut aller dans cette direction là et c'est un des trucs qui est très intéressant justement avec Predator, c'est que c'est un film qui est un petit miracle en fait. Un bijou de simplicité qui aurait pu être un Schwarzy de plus à l'époque, qui commence un peu comme un Schwarzy de plus à l'époque et en fait pour une raison très spécifique, c'est-à-dire que t'as tous ces concours de beats au début de mecs qui se Dylan, un fils de pute, ils se font des bras comme ça, ils se font des comment t'appelles ça, des bras de fer pour montrer qui est la plus grosse quoi. Et tout ça c'est fait, ça pourrait être Commando, ça pourrait être Running Man, ça pourrait être n'importe quoi. Et en fait,
en plus avec la vanne imposée qui était un peu la marque de fabrique de Schwarzy à l'époque, le knock knock pendant la scène d'action, ce genre de truc là qui était typique du cinéma de Schwarzy à l'époque.
Voilà. Et ça c'est un truc qui est complètement détourné par McTiernan à des voix, à des fins narratives en fait. C'est-à-dire que en gros, à l'époque du film, t'as Schwarzenegger qui représente en gros l'homme le plus fort du monde. Hein. Je veux dire, voilà, entre lui et Bud Spencer, voilà, on est servi. T'imagines Bud Spencer dans Predator, ça aurait été pas mal.
Génial.
Non mais voilà, c'est l'homme le plus fort du monde. Et comment on va lui trouver le plus grand ennemi? Le plus grand ennemi, c'est le Predator. Et le Predator, il est d'où? Il est de l'espace parce qu'en fait, c'est pas possible
parce
en fait qu'il y a quelqu'un plus fort qu'Arnold
terrestre
sur Terre. Et le truc, c'est que toute l'idée en fait que tu puisses croire qu'Arnold a peur de lui, c'est justement de le mettre dans la surenchère du roulage de mécanique, de mécanique au début, pour justement en fait te faire croire à la trouille. Et c'est là où en fait Arnold est, moi je trouve, le mieux utilisé dans tous ses films. C'est celui où je joue le mieux, le plus subtilement. C'est précisément parce qu'en fait on a construit toute cette approche au fait sur le personnage. C'est-à-dire on va utiliser Schwarzenegger pour ce qu'il est. Et on va en fait épurer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, t'as tout l'aspect un peu sophistiqué de l'époque, hein, parce que c'est pas très sophistiqué aujourd'hui quand tu regardes ça. Mais la punchline, comme tu dis, la grosse mitraillette, les muscles bandés, les copains, etc., etc. Et en fait, on t'épure au fur et à mesure. Et justement, en fait, l'idée de faire un film de plus en plus simple, de faire un film de plus en plus abstrait, ça vient aussi de McTiernan. C'est-à-dire que Shane Black avait raison. Et McTiernan aussi a abordé ça au fur et à mesure. Alors quand je dis film miraculé, pourquoi? À la base, ils avaient un Predator qui était tout pourri, qui était un vrai problème. Le monstre était problématique. Ils ont commencé à shooter des... En fait, c'est un monstre qui est tardé à arriver sur le plateau. D'ailleurs, déjà, tournage très difficile au Mexique, tout le monde attrape la ch'touille. Il n'y a que Schwarzenegger qui avait compris le truc, donc il se faisait amener ses plats de Los Angeles, en fait, pour être sûr de ne pas attraper la chiasse. Et non, mais c'est véridique, hein. Non, mais on rigole, mais le truc, c'est que ça crée quand même une ambiance de tournage, hein. On ne peut pas dire le contraire, quoi.
C'est pas là qu'il y a eu Jean-Claude Van Damme aussi qui avait été approché
Jean-Claude Van Damme,
pour jouer
et Jean-Claude Van Damme joue le Predator dans sa première itération. Ouais, c'est-à-dire que si vous achetez le DVD ou le Blu-ray, en fait, sur les bonus, ça y est. Et le truc, c'est que ce monstre tardait à arriver, il finit par arriver. McTiernan ouvre la boîte, en fait, quand il voit le costume, il fait bon, on va faire des essais. Il monte des essais, il envoie ça au studio, il dit: vous voulez vraiment qu'on tourne comme ça? Et les mecs disent: effectivement, c'est ridicule. il shut down la production, il ferme la production pendant 6 semaines, et là il faut repenser le film. Enfin, faut repenser, ça permet à McTiernan de repenser le film. Le problème, c'est qu'en fait, t'as Arnold qui est attendu sur une autre production après, donc ça raccourcit son temps de présence sur le tournage. Les mecs, entre-temps, créent le Predator iconique qu'on connaît. Hein,
grâce à Cameron.
Grâce à Stan Winston et Cameron, en fait, qui proposent quelques trucs parce que les mecs étaient en train de bosser ensemble à l'époque. Et le truc qui se passe, c'est que donc ils reprennent le tournage sur le scénario qui était écrit de base par Gene et John Thomas, les deux frères. Et ce qui se passe, c'est que, bah, par exemple, tu vois, le combat de la fin de Predator 2, là, qui se passe dans le vaisseau spatial du Predator, c'était la fin du premier Predator. Sauf que McTiernan n'en voulait pas. Et il voulait vraiment aller dans l'idée de ce personnage qui est finalement plus humain que d'habitude, que ce genre de personnage dans les films à l'époque. Il disait voilà, on est une équipe de sauvetage, on n'est pas des assassins. C'est ce qu'il dit au début. Schwarzenegger va revenir à une forme de bestialité parce qu'il est poussé dans ses derniers tranchements par le personnage du Predator, par ce chasseur en fait, quel Predator, ce chasseur venu de l'espace. Et le truc en fait qui est passionnant, c'est que à cause de la façon dont le film s'est fait, les mecs ont dit putain, on va jamais pouvoir. Les producteurs ont dit on va jamais pouvoir tourner la fin dans le vaisseau. Qu'est-ce qu'on fait? Et McTiernan leur a dit arrive la dernière semaine de tournage puisque Arnold devait partir. Il restait 3 jours de tournage, je crois. McTiernan a fait ok, j'ai une idée, mais on dégage le vaisseau quoi. Et c'est comme ça en fait qu'on s'est retrouvé avec ce combat iconique, hyper fort, hyper puissant, quasiment à part les 3-4 punchlines effectivement d'Arnold, quasiment sans dialogue. Voilà. Et quand je parle encore une fois de film miraculé, c'est que voilà. Alors là, je sais pas quelle copie ressort exactement parce que les mecs te parlent de copie neuve. Le film a été remasterisé de façon assez dégueulasse en 2010 sans McTiernan, sans même le chef-op, je crois, hein, Donald McAlpine, par la Fox en fait pour refaire le Blu-ray. Et là, c'est une remasterisation, c'est du ripolin quoi. C'est dégueulasse. Hein, t'as l'impression d'avoir des statues de cire en fait quand tu regardes Carl Weathers dans le film. T'as l'impression de voir une statue de cire. C'est vraiment pas beau, donc j'espère que c'est pas la copie qui sort, j'espère qu'il y a une vraie nouvelle copie, voilà, mais...
Il y a une nouvelle affiche qui est très jolie.
Voilà, j'en doute pour une raison très simple, c'est que quand on parle de film miraculé, c'est que c'est un film qui a aussi beaucoup souffert de sa post-prod, en fait.
La copie a été abîmée.
La copie a été abîmée parce qu'il fallait zoomer dans certaines images, il fallait, inverser des plans.
Il y avait même déjà des plans à l'époque qui n'étaient pas aboutis techniquement, il fallait garder, mais...
Bon, voilà, et il fallait inverser certains plans, en fait, ou les remettre en marche arrière, si tu veux, en gros. Pour avoir en fait le sens de l'image. Et t'as carrément, et ça moi j'ai mis des années, c'est mon ami Julien Dupuis qui me l'a fait remarquer, c'est dire la puissance d'évocation du film, c'est que dans le combat final qui se passe de nuit, t'as un plan de jour, mais vraiment un plan de jour au milieu que j'ai jamais remarqué, alors j'ai dû voir le film 50 fois. Et c'est dire à quel point t'es emporté par la mise en scène et par la puissance en fait,
voilà,
du film.
Ce qui est donc là, fait un petit peu état des lieux, Steph, du côté miraculeux du film pour l'époque. Après, ce qui est quand même... Moi, ce qui me bluffe encore aujourd'hui, parce que je ne veux pas rentrer sur tout ce qu'on a pu dire sur le film, parce que tout le monde en parle depuis 20 ans, mais le statut qu'il a gagné du fait de son intemporalité hallucinante, c'est un film où effectivement tu enlèves une ou deux blagues un petit peu too much, un petit peu typique 80s, t'enlèves ça,
mais
qui font partie du délire. Nous, on a grandi avec ça. Ça peut perturber potentiellement un public d'aujourd'hui qui n'est pas habitué à ça. Mais t'enlèves ça, le film, il n'a pas pris une putain de ride. C'est hallucinant. Ça reste encore aujourd'hui, quand on me demande des fois, moi, c'est quoi le plus grand film d'action des 20 dernières années, je dis fondamentalement, presque depuis Predator, c'est presque le film d'action parfait, qui est à la fois un survival, on en a beaucoup parlé, et tout est dû à cette mise en scène absolument hallucinante qui est une mise en scène stratégique. On en parle souvent, la mise en scène de McTiernan, de cette façon, toi tu parlais, Stéphane, souvent de mise en scène en 3D, mais alors on peut appeler en 3D, on peut appeler stratégique, mais cette façon de positionner cette caméra, de jouer sur le feuillage, de jouer sur l'organique de la forêt, de tout placer, si bien que dans un environnement touffu, on arrive systématiquement à comprendre parce que notre regard est dirigé d'une manière supra-intelligente. En plus, on est dans un environnement flou avec une menace floue,
voire invisible.
C'est toute l'abstraction en fait du personnage qui rend le film abstrait. Quoi.
Et arriver à nous balader là-dedans, à ce qu'on ait systématiquement une perception des enjeux sur chaque scène, c'est absolument stupéfiant encore aujourd'hui. Quand moi j'ai tendance des fois à m'énerver sur des blockbusters et comme dire oh là là, mais bon, c'est fun, c'est fun. Je dis bah non, là c'était fun. Ça c'était fun, putain.
Et c'était fun parce que c'était ultra masterisé. C'était fun parce qu'on avait des putains de génies derrière une caméra. C'est ça qui produit le fun. C'est pas du fan service de merde. C'est pas un clin d'œil à la con pour titiller ton espèce d'intellect de bas étage. Là, c'est, on te prend pas pour un con. Il y a quasi pas de dialogue, comme il dit pendant la troisième moitié du film. Tu as à la fois pris dedans, tu as à la fois. C'est d'une intensité émotionnelle hallucinante. En même temps, c'est jouissif au possible, quoi. On ne fait plus des trucs comme ça aujourd'hui. Et ce film-là, tu le ressors au cinéma comme il ressort là. Il aurait une campagne de pub, on te dirait, je sais pas moi, c'est le dernier film avec un acteur à la mode, et tout le monde tomberait par terre. Mmh. Donc tous ceux qui se disent, oh là là, Schwarzy, parce que c'est ça aussi qu'il faut remarquer, outre le fait miraculé, c'est cette capacité qu'a eu le film à sortir complètement de son statut d'actionneur, d'exploitation.
Ouais, de véhicule pour Schwarzy,
voilà, des années 80. Que, d'ailleurs, ça me fait fortement marrer. C'est tous ces mecs qui se retournent leur veste aujourd'hui et qui vont de se citer Mac Tiernan et qui font des masterclass avec Mac Tiernan et qui je ne cite personne, mais non, il se reconnaîtra. et qui font des grands discours pseudo-intellectuels, mes couilles, sur ça, et qui à l'époque bâchaient ça comme un Schwarzy de bas étage. Parce que Predator, Terminator, Exterminator, tu vois, on était dans cette logique-là, quoi. Et je me rappelle, nous, pauvres mioches ados à l'époque, on avait vu ça, et c'était comme Die Hard, on s'était pris une claque cosmique, et on savait que les choses n'allaient plus être les mêmes après des films pareils. Et on l'a très rapidement constaté par la suite. Donc rien que pour ça, il faut, pour nous, aller le revoir parce que c'est indispensable, et pour toute cette jeune génération de cinéphiles, parce que quand on est jeune, on est influençable, on a tendance à réitérer les opinions qu'on entend. N'écoutez pas les conneries qu'on vous dit, allez voir McTiernan, vous allez voir un génie visuel, quoi.
Et puis le truc avec Predator aussi, c'est que ça a créé, donc en fait c'est un bestiaire fantastique. T'en as plus, hein, je veux dire, tout simplement des monstres, des créatures qui apparaissent comme ça, comme le Predator, dernièrement Jeepers Creepers, c'est un des derniers exemples que j'ai en tête.
C'est surtout un bestiaire qu'on nous a remâché en plus derrière, qu'on a essayé de faire revivre, mais de manière complètement artificielle, avec des films qui n'avaient ni queue ni tête.
Et tu parles des suites, c'est ça le problème justement, c'est qu'en fait t'as un personnage qui est iconique, qui fonctionne, il a été adapté en jeu vidéo, en comics, le Predator, il est là, quoi. Tu l'achètes, quoi. Tu te dis, putain, c'est quoi ce bestiau, quoi. Et moi j'ai une petite tendresse pour Predator 2 qui est un petit souvenir
d'ailleurs là-dessus, sur l'iconisation de la créature, sur à quel point elle est fondamentale dans le récit par rapport à tout ce que disait Stéphane sur Schwarzenegger, et puis par sa propre créativité, j'ai envie de dire, l'innovation de cette figure là et l'intelligence avec laquelle elle a été construite, parce que le Predator en soi est super consistant dans la mythologie qu'il propose, dans ce qui le définit, ses rituels, et tout ça va bien au-delà de la simple idée d'un chasseur. Il y a plein de choses derrière, et c'est là où tu vois, Shane Black qui est en train de préparer le prochain Predator, la première chose que te dit ce mec, c'est pour faire un Predator, ce ne sera pas le Predator que vous connaissez, en tout cas littéralement. Il va y avoir besoin, après le massacre qu'ils en ont fait, de reconstruire une figure mythologique. C'est-à-dire que dans les rares choses que te dit Shane Black sur le film, là, il te dit, je vais changer le Predator. Il te parle pas du mec qui est en face, il te parle pas du survival, il te parle pas de l'actionneur, il te parle de cette figure mythologique. Signe que le mec, déjà, il sait pourquoi ça a été à ce point-là puissant comme film. Donc ça, moi, c'est la seule chose qui me rassure fondamentalement déjà.
Shane Black, tu peux espérer va aborder ça, peut-être pas au niveau de McTiernan, peux au moins espérer qu'il va
en tirer quelque chose.
Voilà. Là, le souci surtout, c'est que t'as bon, Predator 2, encore une fois, c'est sympathique, mais alors AVP 1 et 2 et puis moi encore pire, hein, le Predator de Rodriguez et Mordental, qui est carrément, je trouve, un viol du film original. C'est-à-dire que t'as toutes les scènes, t'as cette scène formidable dans le Predator de McTiernan où t'as le pisteur, en fait, qui est interprété par, j'oublie son nom, d'un seul coup là, qui en fait le
Sonny Landham,
merci, ouais, qui a peur en fait du Predator et qui en fait va finir par l'affronter, donc affronter sa propre peur. C'est toute la logique du truc, c'est tu cut là, t'entends le cri, c'est réglé. Les mecs dans Predator, ils te font la même chose avec un personnage de Yakuza à la con. Enfin, déjà, en plus, c'est complètement con. Là. Un coup, t'as un Yakuza, un coup, t'as un mafieux, je sais plus quoi, un coup, t'as... Enfin, bref, n'importe quoi. Et c'est absolument incohérent, quoi. Et ce type, en fait, il te montre le combat. Et c'est exactement tout ce qu'il ne fallait pas faire, en fait. C'est tout ce que disait Shane Black, c'est on va pas réécrire des scènes en plus sur le Predator original. On garde la structure telle qu'elle est. On n'a pas besoin d'en rajouter. L'abstraction fonctionne, en fait. Et c'est C'est ça en fait qui est formidable dans Predator, c'est que ça t'en renvoie à tes propres peurs, à tes propres tribalités, à tous ces éléments en fait constitutifs de l'être humain, de base en fait.
Et c'est la quintessence d'un survivant.
Voilà, et c'est là où tu peux comprendre le l'universalité du film en fait. C'est là où Predator, en fait, c'est pour ça que Predator aussi, 29, 30 ans après, là ça fait 29 ans, n'a pas vieilli quoi. Et à mon avis, moi je l'avais revu en salle à Gérard Armé dans une copie bah, qui était plus ou moins une copie de l'époque, donc très très arrachée. Mais la puissance d'évocation, elle est là. Hein. Oui. Il n'y a pas à chier. Quoi.
Ça me fait marrer parce qu'à Gérard Armé, excuse-moi, on est long, c'est pas grave. Mais c'était à Gérard Armé, je l'avais montré à un des acteurs de la Horde qui était le vieux monsieur qui jouait le personnage de René. Il n'était pas du tout au fait de ça. C'était pas sa culture. C'était un monsieur du théâtre et tout ce que tu veux. Mais d'être là à Gérard Armé, il se disait je vais découvrir le cinéma de genre. On l'a amené voir Predator et ça a été une claque cosmique. C'était marrant de voir quelqu'un qui n'est pas du tout de cet univers voir un film comme ça et être happé à ce point-là.
25 ans après, quoi.
Hein, voilà, et 25 ans après. C'est un film hallucinant.
C'est dire la puissance et l'universalité de Predator.
Chef-d'œuvre.
On peut le dire, chef-d'œuvre. Et c'est en ce moment, ça tombe bien, de retour au cinéma, mais dans peu de salles. Donc profitez-en sans doute pour peu de temps aussi. Merci Stéphane, merci Yannick, merci à Jules, à la technique et autant que pour l'accueil. Rendez-vous sur nosciné.com pour retrouver toutes nos anciennes émissions. On rappelle que Nosciné, c'est un podcast du réseau Binge Audio. Retrouvez aussi sur binge.audio. Et à très vite pour un nouvel épisode.
Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizi. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Herbert Léonard et à Gucci Mane. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.